Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tu me lances pas, je suis bourré, mec. Je vais dire n'importe quoi.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui sent bien s'éloigner de lui l'indolence de l'été, s'installer le petit pincement au cœur qui sonne l'imminence de la rentrée, mais refusant de se laisser abattre, nous comptons bien boire jusqu'à la lie le calice des vacances et conclure en beauté notre intense session estivale dans les travées de notre vidéothèque idéale avec un monument, une pierre angulaire du cinéma qu'on aime, John Carpenter, dont quasiment chacune des œuvres mériterait qu'on lui consacre une émission, mais comme il faut bien faire des choix dans la vie, nous nous arrêterons tout particulièrement sur deux d'entre elles, Asso et The Thing, et pour parler de tout ça autour de la table, trois princes des ténèbres, Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est Nos Ciné spécial John Carpenter. C'est le cinquième et dernier numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Deuxième entrée dans la section long métrage du très joli CV de Monsieur Big John Carpenter, un film qui a fait école, dont de nombreux réalisateurs continuent encore aujourd'hui d'exploiter les recettes, voire de tenter parfois tristement de recréer la puissance ensorcelante. Ce film, c'est Assault on Precinct 13 en VO, 1976, petit budget, $100,000, un casting sans star, mais un chef-d'œuvre immédiat, un huis clos étouffant, aux côtés d'un petit groupe encerclé par un gang redoutable de Los Angeles dans les murs d'un poste de police quasi désaffecté, trois fois rien a priori, mais le résultat nous tient à chaque visionnage accroché au plafond pendant 91 minutes avec cerise sur le gâteau, la BO signée Carpenter lui-même, là encore souvent copiée, rarement égalée. Je précise pour les chanceux qui l'ignoreraient qu'Asso a fait l'objet d'un remake en 2005 par Jean-François Richet avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne et que c'est un peu tout pourri. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'original. Quel regard porte-t-on sur Asso, le vrai, aujourd'hui, Arnaud ?
Eh bien, oui, Asso, alors bah, c'est vrai que c'est le, on va dire, c'est le premier film qui a vraiment fait remarquer John Carpenter. Avant, il y avait eu Dark Star quand même aussi, son film de science-fiction. Mais je pense que c'est un film remarquable dans le sens où déjà d'entrée, il pose la patte de Carpenter dans sa manière de recycler à l'intérieur du cadre de la série B de cette époque ses goûts de cinéma classique. Quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée. On a souvent parlé de Rio Bravo, évidemment, oui. Le western de War Dogs, vu que c'est un disciple revendiqué de War Dogs.
Et qu'Asso serait une relecture quelque part de Rio
voilà.
Bravo.
Moi, personnellement, il en a aussi parlé, je trouve que c'est plus un remake de Escape from Fort Bravo de John Sturges avec William Holden, je ne me rappelle plus le titre français, mais dans le sens où il y a dans les deux films cette alliance entre, on va dire, les méchants et les gentils au départ, pour affronter une menace plus grande. Dans Escape from Fort Bravo, c'est la cavalerie qui s'allie avec des bandits pour repousser des Indiens. Quoi. Ils sont assiégés dans un bout de désert. Hein. Et, mais je parle davantage de ce film parce qu'il y a la liaison en fait, avec Asso dans le sens où l'ennemi n'est vraiment pas personnalisé. L'ennemi oui. de Rio Bravo, il est personnalisé. Quoi. On le voit. Celui de Fort Bravo, c'est vraiment ça. C'est, on ne les voit pas, les Indiens. On ne les voit quasiment pas. Quoi. C'est juste des balles qui filent, des flèches, des trucs comme ça. Et c'est ça qui fait vraiment le sel d'Asso. C'est qu'on a un renversement des codes, on va dire, face à une menace indéterminée. Et on comprend le goût de Carpenter, vu sa filmo par la suite, pour ce petit aspect presque fantastique qui lorgne vers le fantastique, quoi, de d'avoir cet ennemi indéterminé. Il y a des séquences d'angoisse dans Assaut, de pures séquences d'angoisse, où évidemment la musique joue son rôle, mais où on voit les opposants se positionner de manière presque fantomatique. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tu as parlé du remake de Richer, mais il y a un remake non avoué qui est largement plus brillant et français, c'est le Nid Gap de Florence Siri, quand même, parce que c'est pareil, ça reprend la...
Ça reprend complètement les codes, voilà, les codes d'Assaut. Stéphane.
C'est un film, c'est-à-dire c'est un film qui a créé une structure, enfin qui a créé, en tout cas qui a remis au goût du jour une structure d'une façon urbaine dans plusieurs films. Je veux dire, même nous, on a un peu fait ça avec La Horde à l'époque, quoi. On sent même s'en rendre compte, quoi. C'est tellement quelque chose de...
La Horde, qui est le film de Yannick que vous avez,
voilà,
sur lequel vous avez
travaillé. C'est une structure qui est tellement en fait forte, simple mais forte, que voilà, en fait, il y a beaucoup de films de série B, de choses qui ont repris ça, même encore une fois sans s'en rendre compte. Le truc qui est très fort avec Assaut, c'est justement ce que disait Arnaud. C'est que c'est un film qui représente Carpenter de manière globale. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on avait le cinéma de John Carpenter. Ouais. C'est ça, quoi. Le cinémascope, la musique, l'aspect radical, no bullshit du personnage. Et c'est, moi, personnellement, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans le cinéma actuel, quoi. C'est-à-dire vraiment le fait qu'il y ait une personnalité qui transcende totalement le sujet, le genre en fait qui est traité à l'écran, quoi. Et Assaut, c'est ça, quoi. C'est, tu pars de Howard Hawks, t'atterris sur John Carpenter. C'est vraiment comment reprendre ses propres films. The Thing, ça va être la même chose. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit un remake, malgré le fait que ce soit, c'est un film de John Carpenter, quoi qu'il arrive, en fait. Et c'est ce qui fait la force de son cinéma de manière générale. C'est pour ça que j'ai un peu de mal en général à faire la distinction qualitative entre tous les autres films, parce qu'il est tellement, sa personnalité, elle imprime tellement en fait son cinéma, et vice versa, que voilà, c'est presque un... Maintenant, ça a un peu changé quand tu vois The Ward, mais c'est à l'époque, en tout cas, c'était un vrai plaisir. On savait qu'on allait voir quelque chose de fort, en fait, en allant voir un film de John Carpenter. Pas un film de vendu, pas un film de studio, pas un film de truc, un film de John Carpenter, quoi, vraiment, quoi. Et Assaut, c'est le premier, pas forcément mon préféré de tous, hein, si on doit vraiment faire un aspect qualitatif, mais vraiment, en tout cas, celui qui représente pour la première fois le cinéma de John Carpenter tel qu'on va l'avoir pendant 25 ans au cinéma. Après,
tu parlais du côté radical, c'est un film qui a eu des problèmes avec la censure aussi, quoi, parce qu'il y a des scènes quand même très dures, on pense.
Bah, la petite fille,
le marteau. Il y avait 2-3 plans qui avaient été coupés, d'ailleurs. Je pense qu'une des forces d'Assaut, c'est comme beaucoup de petits films qui ont été faits dans les années 70, il y a aussi, c'est vachement tributaire de leur économie. Il faut bien mesurer que les 100 000 dollars, il faut oublier que Assaut, quand il a été écrit, Carpenter avait appelé ça, je ne me rappelle plus exactement, Andersen Alamo ou Alamo Andersen, c'était ça le titre. Donc la référence à Alamo était déjà là. Et je pense qu'il avait l'envie de faire cette espèce d'énorme hommage épique à Alamo, et qu'évidemment, il n'a pas eu les moyens, et que ce manque de moyens l'a obligé à préciser sa mise en scène, préciser sa scénographie, resserrer son récit. Ça a été régulièrement le cas dans l'histoire de Carpenter, qui a toujours oscillé entre le studio et l'indépendance, et que ça se passait généralement pas très bien quand c'était en studio, et dès qu'il tombait en indépendance, ben là, ça l'obligeait à être concis à être brut de décoffrage. C'est un des rares cinéastes dans les 30 dernières années où il n'y a pas un putain de bout de gras dans ces films. Moi, j'hallucine. C'est-à-dire, c'est des films qui ne vieillissent pas. Tu te remates The Thing aujourd'hui, il n'a pas vieilli d'une ride. Tu pourrais dire, il est sorti hier, le film. Il n'y a aucun problème. Ça marche et ça enterre tout ce qui se fait aujourd'hui, son problème depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, Assaut, il y a cette économie qui aussi, tous ces plans qu'on aime bien, ces mouvements, ces plans longs, ils sont tributaires de cette économie. Ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils voulaient. Même le fait que ce soit quasi muet, le fait que la fusillade se fasse sans bruit, qu'on ajuste les impacts, qu'on resserre auprès des corps placés dans le cadre avec des longs plans qui sont en général des petits plans de dolly très, 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 très simples. Mais ça a été une nécessité, et du coup ça donne cette espèce de film abstrait, épuré, qui est, comme le disait Stéphane, éminemment fantastique, mais fantastique, j'ai plus envie de dire, dans le cadre cinématographique. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est jamais dans la réalité chez Carpenter, on est tout de suite dans le genre, on est tout de suite dans une surréalité, on est tout de suite dans une page blanche, presque théâtrale des fois, qu'on va, sur laquelle on va devoir écrire. Deuxième chose, cette...
C'est que la première, ça.
Je vais vite. Ça, associé au film de Don Siegel, au film de Peckinpah, qui ont apparu, qui n'étaient pas très bien considérés dans les années 70,
très mal,
même voire certains extrêmement mal, sont les pionniers du cinéma d'action moderne tant qu'on l'imagine aujourd'hui.
Ce que tu dis sur le film d'action, juste petite parenthèse, c'est Edgar Wright qui considère Assaut comme le premier film d'action.
Mais voilà, moi je considère que c'est probablement plus Peckinpah, mais les deux sont liés, c'est la même époque.
Carpenter, c'est un anticonformiste, évident, mais c'est un mec à morale, c'est un mec tiraillé. C'est ça qui est intéressant, c'est que morale, mais morale anarch. Moi, ce que j'aime chez Carpenter, c'est que c'est... Si chez Friedkin, les personnages basculent dans des névroses, chez Carpenter, ils se révèlent. Et c'est pas pour rien qu'on a souvent des bad guys, des détenus, des criminels, des tout ce que tu veux, qui deviennent presque plus héroïques que le héros. Même Big Trouble in Little China est un jeu sur qui est le héros, où est le vrai, où est le faux, avec ce personnage qu'on croit être le héros et qui n'est finalement jamais pendant le film.
Et il y a Asso à retrouver en DVD et VOD, à voir absolument, vous l'aurez compris, ainsi que tout le reste de la filmo qu'on va continuer à explorer.
Because I hate that car. I mean, you care more about that car than you care about me.
Who's the Duke?
The Duke? The Duke of New York, eh, number one? The big man, that's who. You can't meet the Duke. Are you crazy? Nobody gets to meet the Duke. You meet him once and then you're dead.
He's gonna get you.
He's gonna get you. He's gonna get you. He's gonna get you.
He's gonna get you.
He's gonna get you.
The boogeyman is coming.
On avance de quelques années, direction l'an de grâce 1982, année de sortie d'un des plus grands coups de maître de Carpenter, The Thing, dans le top 10 perso de bon nombre d'entre nous. Une plongée horrifique dans l'enfer de l'Antarctique où une entité extraterrestre vient bouffer du chercheur norvégien puis du chercheur américain, avec un Kurt Russell qui crève l'écran, des scènes qui retournent bien profondément le cerveau. Petite pensée émue pour les chiens transformés en créatures de l'apocalypse, ça marque à vie.
I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won.
You guys gotta listen to Gary. He can beat one of those things.
Et une nouvelle fois, la musique est absolument monumentale. The Thing, on en pense quoi aujourd'hui, Stéphane?
Bah, c'est pareil, un grand classique. Hein. C'est même, je pense, un des plus grands films d'horreur qui ait jamais été fait. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est un film qui, évidemment, n'a pas bien marché du tout en salle, qui a été considéré comme un film pornographique. Hein. C'est assez dingue en fait de penser que
ça puisse,
ouais, voilà, aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le travail de Rob Bottin, le maquilleur sur le film, est juste incroyable.
Enfin, c'est un qui a fini à l'hosto, Rob Bottin.
Voilà, qui travaillait dessus 23 heures sur 24, on va dire, quoi. Mm-hmm. Et effectivement, c'est dans la lignée de ce que disait Yannick tout à l'heure sur la personnalité de John Carpenter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment prendre un film qui est considéré comme un classique des années 50, qui est dans son temps, hein, qui est dans son époque, et en fait le transcender complètement, en faire quelque chose de totalement viscéral et effectivement je trouve assez difficile à analyser parce que c'est un film sur l'apocalypse, oui. Mais c'est un film qui ne montre pas l'apocalypse, c'est un film qui se regroupe sur un microcosme en fait et qui décide de jouer sur cette logique là. C'est une relecture du mythe du Body Snatchers aussi, qui est moi un de mes thèmes favoris en fait dans le cinéma fantastique, et donc un film profondément sur l'individualisme, en fait, sur l'individualité et sur la personnalité de chacun et comment elle ressort. Voilà, donc t'as des scènes qui sont des scènes classiques qui ont été refaites
100 000 fois
dans des films de merde, oui. Parce qu'il faut bien le dire, quoi. La scène du test
même
sanguin,
le film entier a été refait dans un film de merde.
Voilà, mais ça on va y venir après pour justement signifier l'importance de la personnalité de John Carpenter à mon sens dans son cinéma. C'est-à-dire que le truc c'est que la scène du test sanguin en fait c'est une scène qui est très forte dans le film qui regorge de suspense. Qui a été refaite dans The Faculty, par exemple, de Rodriguez, mais de façon complètement aléatoire et ridicule. Et effectivement, quand tu vois la différence entre les deux films, quand tu te tapes les deux films, tu vois tout de suite ce qui est très important dans le film de Carpenter, c'est que, bon, t'as pas besoin de The Faculty pour le savoir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le fait de faire un film profondément viscéral et humaniste, sous des airs de film cynique et dur, quoi. C'est tout ce qui représente John Carpenter, à mon sens, dans le cinéma d'horreur. Et c'est un des derniers grands films d'horreur épiques.
T'as The Thing et t'as L'Exorciste. Ça se pose là et merci, au revoir. Quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres choses.
Voilà, et ça a été... Moi, justement, je pense que les gens ont comparé... on dit que le beat du film était dû au fait que E.T. avait cartonné cet été-là, mais moi je pense que c'est absurde, c'est juste parce qu'il y a une thématique extraterrestre. Mmh. Et voilà. Je pense que le film n'a pas marché parce que tout simplement, c'est pas un film, comme la plupart des films de John Carpenter, ce n'est pas un film qui brosse les gens dans le sens du poil, c'est un film qui dit les choses de manière assez,
radicale,
assez crue, quoi, oui. C'est-à-dire sur la nature humaine. Mmh. Donc forcément, c'est un film qui a pris du temps, en fait, pas tant que ça d'ailleurs, comme la plupart des films de John Carpenter, ça a pris 5-6 ans pour devenir un vrai classique, quoi. pour être révélé. Mais c'est un film qui, je pense, a vraiment été marquant aussi dans la carrière de John Carpenter à venir, dans le sens où je pense que ça l'a fait vriller. Si ce film-là avait été extrêmement bien considéré à l'époque où il est sorti, sa carrière aurait vraiment changé. Oui. Ça serait devenu James Cameron, ça serait devenu des mecs comme ça, en fait. Ça serait devenu Spielberg, vraiment.
Il s'est jamais remis du désamour.
Et je pense que de ce film-là, du beat de Big Trouble in Little China, ce genre de truc, ou ces films de studio où il aurait vraiment pu devenir le maître de ce type de film, quoi, à la Spielberg, encore une fois, à la James Cameron.
C'était un gros film.
Hein. Ouais, c'était un très gros film, mais ça s'est bidé.
C'est son plus gros budget. Là.
Voilà, et je pense que c'est ce qui a défini le reste de sa carrière, le beat du film. Moi, je sais, quand on l'avait interviewé à l'époque, je lui avais dit, mais c'est cool qu'il y ait des gens qui considèrent le film aujourd'hui comme un classique. Il dit, ouais, mais c'est trop tard. Ouais. Et en fait, quand il m'a dit ça, c'était vraiment, je me suis dit, ah oui, d'accord. Ça l'a vraiment marqué.
Le reste de sa carrière, effectivement. Arnaud.
Oh, moi, c'est un chef-d'œuvre total. Je crois que c'est difficile à faire ce genre de liste, mais ça serait facilement dans mes 5 films préférés. Quoi. C'est comment arriver à concilier la SF de papa, le western classique, la terreur lovecraftienne, le film d'aventure, le côté aussi scruter comme ça l'humanité dans un huis clos, ce que font les hommes quand ils sont dans un lieu isolé entre eux comme ça et confrontés à une menace qui est implantée au sein même de leur groupe. Enfin voilà, c'est un film d'une richesse infinie, d'une exécution formidable à tous les niveaux. On a parlé des maquillages, la direction artistique, la mise en scène, les acteurs, tout. Mais c'est un film. Ça fait partie des rares films vraiment où je ne verrais pas quoi dire de mal sur le film. Oui. Quoi. C'est un film, par exemple, qui prend le parce que globalement c'est aussi un film de maison hantée hein, quelque part quoi. Enfin c'est avec la menace intérieure des gens enfermés comme ça dans un lieu clos. Et dans ce genre-là, en général, tout passe beaucoup par la suggestion. Quoi. Oui. Bon, je ne vais pas refaire le truc, hein, mais ouais, les portes qui claquent, le sol qui grince, ces trucs comme ça. Là, à l'intérieur de ce genre-là, Carpenter dit « je ne vais pas faire ça, je vais tout vous montrer. » Et vous allez en prendre plein la gueule. Quoi. Et donc ça, déjà aussi, c'est parce que ça va crescendo. Quoi. Je veux dire, jusqu'au final, avec la bête qui explose toute la base, tout ça, il y a un final aussi très noir, quoi, très pessimiste. Bien sûr. Je pense que c'est bon, il est coutumé du fait hein, quand on voit des films, enfin ça fait partie de sa trilogie de l'Apocalypse, oui. Comme il dit Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie, c'est aussi des films très, très noirs sur ce que c'est que de vivre sur Terre quoi, parmi les humains. La scène du test de sang, c'est non seulement une grande scène d'horreur spectaculaire, mais c'est aussi une scène de tension, mais comme il y en a rarement eu dans l'histoire du cinéma quoi.
Yannick, pour finir,
moi je suis évidemment d'accord avec tout ce qui je m'en doute. Et je ne vais pas te faire de la surenchère dans les superlatifs, mais il y a un truc qui a l'air tout con hein, à dire, mais quand je les écoutais parler, je me disais, on a baigné à Carpenter avec certains cinéastes de cette époque-là dans un cinéma de genre qui avait pour principe fondateur, pilier fondamental, de faire croire à l'univers dans lequel on était. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Ce qui est primordial pour moi là-dedans, c'est que Carpenter n'est pas là, comme peut l'être par moments De Palma, narcissique, hein, regarde, je me regarde filmer, voire Friedkin, parce que morceau de bravoure, il en fait. On a toujours l'impression que Carpenter s'efface derrière le monde,
son univers.
Le monde et l'univers auquel il doit faire croire. Il n'y a rien qui vient parasiter cette croyance absolue. Alors déjà, elle est extrêmement compliquée à mettre en scène, parce que déjà, c'est un énorme boulot sur les personnages, sur la lumière, sur les décors, pour te faire immédiatement croire à un univers, et ensuite s'y tenir pour que jamais tu aies l'impression que tu es dans la salle de cinéma en train de regarder un film. Tu es vraiment dans l'histoire. C'est peut-être ça, je pense, qui nous unit chez ces cinéastes artisans qui savent à ce point-là manier l'outil cinématographique, qu'ils n'ont jamais oublié que le but, c'était te faire pénétrer dans un monde, te faire y croire et être totalement immersif. The Thing, pour moi, c'est la perfection à ce niveau-là. C'est un film parfait pour ça. Je ne questionne à aucun moment l'univers dans lequel je suis, j'y crois immédiatement.
Et pour faire une petite parenthèse là-dessus, ce que tu disais, tu parlais du remake de The Thing, en fait, qui n'est pas vraiment un remake, une espèce de préquel.
Qui nous raconte ce qui est arrivé aux Norvégiens avant que les Américains.
Voilà, moi ce que je trouve assez. Et puis qui s'appelle The Thing aussi. Quoi. Oui, donc en fait, c'est assez
bizarre.
C'est aussi
couillon que tout le projet.
Voilà. Le truc, c'est que c'est l'héritage en fait, que laisse Carpenter derrière lui qui, moi, me fait un peu peine, quoi, et ce qui le rend d'autant plus unique. C'est qu'on s'en fout des remakes de merde, de The Fog, d'Assaut, de tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'emmerde, c'est de voir, par exemple, quand il fait Invasion Los Angeles, qu'il met Obey en gros, quoi, et que les mecs récupèrent ça et que les gosses portent ça aujourd'hui sur leur t-shirt et savent pas ce que ça veut dire, quoi. Ils savent pas qu'il y a un sens derrière ce truc. Ils savent pas. Ils récupèrent juste l'imagerie. Et c'est, en fait, j'ai l'impression.
C'est surtout qu'ils ont récupéré une. C'est devenu une marque.
C'est devenu une marque. Alors qu'en fait, c'était vraiment anti.
Ils ont totalement inversé le sens du film.
Voilà. Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est ce qu'il laisse, en fait. C'est ce qu'il laisse, en fait, derrière lui qui, pour moi, le rend vraiment unique. Et individualiste et unique dans l'histoire du cinéma, point barre, quoi.
Tout le cinoche qu'on fait est devenu... Tout ce que le cinoche aujourd'hui est l'antithèse de ce que défend réellement John Carpenter.
Tout, absolument tout, même Mad Max.
Sauf Mad Max. Tu le sais.
Je le savais bien. ça m'aurait fait un peu de peine si tu n'en parlais pas, Yannick. The Thing, ça se trouve facilement, très facilement. DVD, VOD, c'est totalement glacial et magnifique et c'est donc absolument parfait pour l'été. Pour terminer, c'est la tradition de nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Quand on a explosé les compteurs, ce sera 15 secondes chacun pour convaincre. On reste dans et autour de la filmo de John Carpenter. Stéphane, tu commences.
Moi, je vais conseiller un bouquin qui est sorti l'année dernière. Ouais. Qui s'appelle On Set with John Carpenter, c'est un livre de photos qui est sorti chez l'éditeur américain Titan Books. C'est des photos des tournages d'Halloween, de Fog. Magnifique ouvrage. Pour ceux qui sont fans de John Carpenter, c'est fait par la photographe de plateau de ses premiers films. Elle s'appelle, attends, je retrouve son nom pour pas l'écorcher, Kim Gottlieb Walker. Voilà. Et c'est un très beau bouquin de cinéma. C'est un peu chéro, hein, c'est $40-50, quoi. Mais ça les vaut, quoi. Voilà.
Yannick.
Ouais, alors moi, deux choses super rapides.
moi, ça, non, mais
pour vraiment comprendre l'état d'esprit du bonhomme, ouais. À la fois ses doutes, ses ambiguïtés, son anticonformisme, le commentaire audio de John Carpenter et sur Big Trouble in Little China, ouais, est absolument indispensable à se mater. Il est avec Kurt Russell, il se raconte des conneries, se fout la gueule des exécutifs de studio. C'est un monument. C'est la première fois que je regarde un commentaire audio où je me pisse de rire pendant une heure et demie. C'est vraiment mortel.
Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont, en fait, à un moment donné, ils s'arrêtent de parler du film, ils parlent d'eux, comment va ton fils, bah, ça va, et ils parlent pendant un quart d'heure comme ça.
Et tu vois vraiment qui ils sont, c'est assez génial. Et le deuxième truc, c'est que on a trop déchiré Los Angeles 2013, ça m'énerve. Ce n'est peut-être pas... C'est peut-être perfectible visuellement, ouais, ça je veux bien. Escape from LA, mais ça condense toute la badass attitude de mec qui ne demande qu'à être aimé, mais qui en même temps veut envoyer chier le système.
Arnaud ?
Bah moi, comme on a parlé d'Assaut et de The Thing, qui était plus ou moins inspiré de films de War Dogs, je vais prendre le film préféré de son cinéaste préféré, Seuls les anges ont des ailes, 1939, avec Cary Grant. C'est un chef-d'œuvre total.
C'est un chef-d'œuvre du cinéma.
Voilà, l'histoire d'un petit port d'Amérique du Sud, d'aviateur postal qui traverse la cordillère des Andes pour livrer le courrier. Et donc, il y a une femme qui déboule dans ce milieu masculin, qui va tomber amoureuse de Cary Grant. Ça. Alors, bon, je ne peux pas raconter tout le film parce que c'est bourré de.
Et puis, on n'a pas le temps
de rebondissements. Non, mais c'est bourré de rebondissements super beaux et où on comprend ce qu'aime Carpenter là-dedans parce qu'on retrouve en germe ces personnages jusqu'à ce final avec ce jeu de. Je dis pas ce que c'est, mais ce jeu de pile ou face où on nous montre voilà ce que c'est qu'un homme quoi, et on retrouve justement voilà tous ces héros, on retrouve en germe Snake Plissken, MacReady, tous ces personnages là qui ont habité la filmo de John Carpenter.
Merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Seb Salis, à la technique, à Pierre Chaffanjon pour les petits extraits, au tank et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on reprend notre rythme annuel, ce sera la rentrée, on sera heureux quand même. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur Christopher Lee, sur De Palma. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante pas, vous allez l'entendre tout de suite.
Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique.
Qui chante, qui chante, qui chante pas.